réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canut si vous nous rejoignez. Il est l'heure d'un Canut Info pour ce jeudi 13 octobre 2016. Bonsoir Laurent, j'espère que tu vas bien.
Bonsoir Delphine, oui.
Alors pour commencer, nous allons parler d'une plainte. Oui, nous avons reçu une plainte ce week-end de l'un de nos plus jeunes auditeurs, Raoul, une plainte concernant les gros mots. Alors, c'est plutôt une plainte qui te concernait.
Oui, je m'étais un petit peu lâché.
Même si je me suis aussi senti concerné, parce que ça m'arrive de temps en temps. Alors, Raoul, on s'excuse, mais c'est vrai que c'est... On a su quand même que c'était pas des si gros mots que ça, c'était pas les plus vilains, pas aussi vilains que ceux de Monsieur Trump, par exemple. Hein, Raoul, tu sais que ce n'est pas du tout un exemple à suivre. Pas simplement parce qu'il dit beaucoup de gros mots, mais aussi parce qu'il a d'horribles idées. Et encore, jour après jour, nous avons droit à son sexisme, à son racisme, à son homophobie, à sa violence verbale, à sa gesticulation aussi. Mais tu sais, malheureusement, Raoul, nous aussi, on a des Monsieur Trump. En France, nous, on a Robert Ménard, un méchant, qui dit des gros mots, un raciste, lui aussi, et tout ce qui va avec. Alors parfois, oui, Raoul, on a envie de dire des gros mots pour exprimer ce qu'on pense de lui, en particulier de cette campagne d'affichage menée par la mairie de Béziers. À Béziers, donc. Moche, hein, cette campagne contre les étrangers, arrêtons de dire juste les migrants, hein, contre les étrangers. Alors le parquet de Béziers a été saisi par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction de provocation à la discrimination, à la haine raciale. Voilà où on en est. Je vous rappelle que Monsieur Ménard veut organiser un référendum sur le projet d'extension d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, excusez-moi, géré par la CIMAD. Donc tu vois Raoul, oui, parfois on aimerait aussi nous continuer à dire des gros mots. Alors peut-être que tu te dis, Raoul, oui, mais quand même, il y a des choses qui peuvent changer aussi notre rapport à notre vocabulaire, à la diplomatie. Et peut-être que tu te dis que le nouveau prix Nobel de la paix va peut-être changer quelque chose. Je sens que Laurent, tu es sceptique.
Je ne le connais pas personnellement.
Alors, il s'agit donc du président colombien, Juan Manuel Santos, qui est récompensé pour ses efforts de paix avec les FARC. Ou alors tu te dis que peut-être que le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, stress lui aussi pour éviter les gros mots dans les conflits et dans la diplomatie qui oppose par exemple les États-Unis d'Amérique et la Russie. Est-ce qu'il va pouvoir, ce nouveau secrétaire général de l'ONU, faire quelque chose? Nous, on a un doute. Et puis, tu sais, sur les Nobel, Raoul, quand je vois que la famille de John Forbes Nash vend sa breloque, je me dis que le Nobel, c'est surfait quand même. Elle estimait cette breloque à 2 millions de dollars, hein, purée, comme dirait l'autre. C'est une belle somme quand même. Et puis, alors, c'est vrai qu'à côté de ça, dans La paix dans le monde, pour éviter les gros mots, on attendait le prix Nobel de littérature. Alors, il y avait des tas de gens hein, qui avaient été mis en avant. On parlait de l'écrivain kényan Ngugi Wa Thiong'o, excusez-moi pour la prononciation, hein, qui parle des crimes du colonialisme, des suites de la décolonisation. On a parlé aussi du poète syrien Adonis, l'un des grands poètes arabes contemporains. Ça a été des prises de position hein, pour ce prix Nobel de littérature. Certains et certaines avaient aussi parlé de Salman Rushdie. Il faut se souvenir que l'Académie a très récemment, c'était en mars dernier, dénoncé la fatwa qui vise Salman Rushdie, hein, des années, des décennies après les faits. Certains et certaines, comme sur les sites de paris en ligne ou alors au niveau du grand public, pensaient que peut-être Haruki Murakami, le japonais, pourrait avoir ce prix Nobel de littérature. On pensait aussi à des écrivains comme Philip Ross aux États-Unis, Richard Ford. Et puis c'est une surprise, c'est un espèce de Baba Cool record du folk américain qui a ce prix Nobel de littérature. Il s'agit donc de monsieur Bob Dylan.
Robert... je me rappelle plus de son vrai nom, tiens.
Ouais, 75 ans quand même. Bon, il avait déjà eu le prix Pulitzer de musique. Hein,
Oui, c'est un grand auteur de chansons traditionnelles américaines. De là, en faire un prix Nobel au niveau des écrivains, bon, le doute m'habite. Mais bon, je sais pas, ils avaient envie de faire un prix consensuel où il y aurait personne qui dirait quoi que ce soit. Effectivement, Bob Dylan, tout le monde s'en fout de toute façon. Ceux qui aiment, bon, ils aiment. Ceux qui aiment pas, ils en ont rien à faire. Donc, un prix sans polémique, c'est gagné. C'est sans intérêt aussi, c'est gagné.
Voilà, alors tu sais, à côté de ça, Raoul, il y a des gens qui font des trucs chouettes, sans gros mots. Des gens pas méchants et qui pourtant reçoivent des coups, c'est le cas de Monsieur Chat. Raoul, tu as certainement vu ces dessins dans la rue, des chats ronds, jaunes et souriants. Eh ben, Monsieur Chat, il a été condamné aujourd'hui à 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir dessiné au printemps de dernier un chat, un oiseau et des roses sur une surface en travaux située dans la gare du Nord, à Paris. Le parquet avait quand même demandé trois mois de prison ferme. Alors tu vois, Raoul, être condamné pour un dessin sur un support éphémère et en travaux, ça a quand même pas bien du sens. Surtout que il nous explique, Monsieur Chat, j'ai dessiné ce chat heureux, cerné de roses belles et menaçantes et accompagné d'un oiseau porteur dans son bec d'un cœur. Cette œuvre évoque la beauté, la liberté et l'amour. J'ai choisi un support dont je savais, vu les travaux en cours, qu'il allait être couvert. J'ai voulu donner aux passants gratuitement un bonheur éphémère. Et ben voilà, tu vois, pas de gros mots là hein, pour Monsieur Chat, que de la beauté. Et pourtant, et oui, tu vas me dire, Raoul, le monde il est injuste. Mais oui, mais c'est bien pour ça qu'on résiste et qu'on se bat et que parfois, on use de gros mots. Mais promis, Raoul, on va faire attention.
Et il y aura quoi donc dans le programme de ce Kenya Info du jour ?
Alors on va partir en Afrique, tu nous parleras d'Afrique du Sud, de Centrafrique, on partira du côté des Corées pour voir un petit peu ce qui s'y passe, on parlera, excusez-moi, de obscurantisme religieux, ce qui nous amènera à parler du Grand Prix de l'humour vache. On reviendra sur la surveillance sur Internet, je vous ai parlé la semaine dernière de Yahoo, on parlera plutôt de Twitter, Facebook et de Google. Et puis évidemment on parlera un petit peu de Samsung quand même, et puis un petit tour du côté de l'environnement et du nucléaire pour terminer ce Canu Info.
Et donc on va ouvrir par l'Afrique du Sud avec la nouvelle du jour. C'est pas la première fois que Jacob Zuma, donc qui est le président de l'Afrique du Sud, est confronté à des problèmes liés à des affaires dites politico-financières, mais aujourd'hui il a encore fait parler de lui puisqu'il a annoncé avoir déposé un recours en interdiction devant la justice donc d'Afrique du Sud pour empêcher la sortie d'un rapport d'enquête. Ah, ça fait pas classe quand même. C'est un rapport d'enquête fait par Thuli Mandonzela, qui est médiatrice de la République, et le rapport devait être dévoilé demain. Donc ce rapport met en évidence l'influence présumée de plusieurs grandes familles, grands patrons, on va dire, sur les décisions et la politique du chef de l'État sud-africain. Alors du coup, ce recours va donner un petit peu de temps à Jacob Zuma, peut-être pour préparer une défense ou pour je sais pas, pour préparer des explications vaseuses, hein, puisqu'il est spécialiste un peu depuis un certain nombre d'années. Alors, faut savoir que l'enquête de la médiatrice de la République vise surtout une famille, la famille Gupta. Donc, c'est une puissance famille d'origine indienne qui a beaucoup d'entreprises dans les mines notamment, mais dans les médias aussi. Et ils sont soupçonnés d'avoir influencé le chef de l'État pour la nomination de ministres et de dirigeants d'entreprises publiques. Qui allait dans leur sens, on va dire. Alors, Jacob Zuma, il s'est défendu en disant « Non, je vous garantis que c'est moi et moi seul qui ai choisi tous ces dirigeants. » A priori, le rapport a l'air conséquent et ne conclut pas du tout à la même chose. Donc voilà ce qui en est, on attendra un petit peu de voir ce qui se passe. Alors il faut quand même se rappeler que cette médiatrice de la République, ces derniers jours, non pas qu'elle va mourir, mais elle va arrêter son travail, puisqu'elle est à la fin de son mandat, ça fait 7 ans qu'elle est là. Et pendant ces 7 ans, elle s'est quand même pas mal battue contre la corruption en Afrique du Sud et contre le mauvais usage de l'argent public, et notamment au plus haut sommet de l'État. Sa plus grosse victoire symbolique, c'est quand elle a fait condamner le président de la République. Donc il la déteste, hein, le président de la République. Donc elle avait fait condamner Jacob Zuma à payer 480 000 euros à l'État pour rembourser des travaux qu'il avait fait et effectué dans sa propriété privée. 480 000 euros de travaux, c'est quand même pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas le pays le plus riche du monde, l'Afrique du Sud, certes, c'est le pays le plus riche d'Afrique, mais bon, quand même. Donc oui, il avait un petit peu abusé et elle avait fait condamner. Alors, l'avenir n'est pas très rose. Alors, pour Jacob Zuma, ça va peut-être se calmer, parce que comme elle part, c'est la fin de son mandat, elle est remplacée, on connaît déjà sa remplaçante, qui est une avocate en poste au ministère de la Sécurité de l'État. Mais elle a déjà dit que les affaires de corruption à la tête de l'État, ça serait pas sa priorité. Oh, c'est bizarre. Donc voilà, elle est choisie parce qu'elle va effectivement laisser tomber les problèmes de corruption. Faut savoir quand même que Jacob Zuma, c'est un vrai traître, hein, pour la classe politique et surtout pour le peuple noir d'Afrique du Sud. Hein, on rappelle qu'il est membre, il est élu pour le parti de l'ANC, le parti qui est issu de l'apartheid, qui a pris le pouvoir à la fin de l'apartheid et qui représentait quelque chose de très très important dans le cœur de tous les noirs qui ont vécu l'apartheid en Afrique du Sud. Et lui et ses amis, parce que c'est pas le seul, ont trahi quand même la cause des Noirs. Et d'ailleurs, aux dernières élections, ils ont quand même perdu pas mal de villes par des partis, contre des partis dans lesquels, même si au départ c'est un peu des blancs qui sont dedans et on se dit tiens, c'est le retour de l'apartheid, et ben on se rend compte que pas du tout. Non seulement c'est peut-être qu'il y a des blancs à la tête, mais c'est partis qui ont changé politiquement et qui sont soutenus par une partie de la population noire d'Afrique du Sud. Ce qui a fait perdre l'ANC pas mal de villes. Et oui, c'est vraiment, quand même, Jacob Zuma, un traître à la cause noire d'Afrique du Sud, parce que arriver au pouvoir après l'apartheid, ça représentait un symbole fort, et trahir ce symbole dans la corruption, c'est quand même pas vraiment du joli boulot. Donc, je sais pas, je pense qu'il sera pas réélu derrière. Enfin, ceci dit, on n'est jamais à l'abri avec la démocratie représentative de surprises désagréables, parce qu'il ne mérite vraiment pas de rester et de retourner à la tête du pouvoir. Alors,
Suite, oui, Centrafrique.
Oui, alors je remonte un peu dans l'Afrique, je vais en Centrafrique, de son nom officiel, République Centrafricaine, RCA, hein, c'est les lettres, l'acronyme. Alors, ça cartonne un peu en Centrafrique. Alors, ça fait un moment, vous allez me dire. Mais les derniers faits en date, ça date d'hier. Alors, ça a commencé avec un truc ridicule, une tentative de vol. C'est 4 ex-miliciens Seleka, des ex-Seleka. Alors, les ex-Seleka, c'est des milices islamistes. Enfin, non, pas islamistes. Je me suis trompé, musulmanes. On rappelle quand même que en Centrafrique, les affrontements se sont essentiellement des affrontements sous prétexte religieux entre deux communautés, donc les ex-Seleka qui sont musulmans et les milices chrétiennes qui sont donc chrétiennes. Chacun y allant de ses exactions, hein, pour le coup, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc ces ex-Seleka, ils ont attaqué une radio locale qui s'appelle Kaga pour s'emparer du groupe électrogène. Ça a foiré et il y a un des assaillants qui se fait tuer. Et là, il décide le soir de se venger et de faire des représailles. Donc, voilà, ils vont attaquer notamment un camp de l'ONU. Alors, représailles, finalement, le bilan, c'est 23 morts quand même. C'est pas mal. Donc, ils ont attaqué un camp de réfugiés des Nations Unies. Les assaillants ont tué 13 réfugiés et 10 des assaillants ont été abattus par les soldats de la mission de l'ONU, s'appelle la MINUSCA. Voilà, donc ça c'était dans la nuit de hier à aujourd'hui. Pour info, hein, c'est combat. Alors on sait pas bien qui est quoi, qui fait quoi dans ces attaques d'hier soir. On sent bien que c'est des ex-Seleka qui ont attaqué. Voilà, les combats réguliers contre les milices chrétiennes, ça s'appelle les anti-Balaka, continuent depuis 2013. Alors on pensait qu'en 2015 la situation serait calmée, l'intervention de la France, hein, dans ses interventions néocoloniales en Afrique, avait dit que ça calmerait les choses. Finalement ça n'a pas tant calmé que ça. Des casques bleus sont arrivés, la mission de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique, hein, qui s'appelle la MINUSCA. Mais finalement, on se rend compte que la violence continue. La semaine dernière, un petit exemple, un officier est assassiné dans le quartier musulman du PK5 à Bangui. Ça entraîne à nouveau des représailles qui visent notamment les peuls musulmans. Bon, voilà, ces violences, la semaine dernière, ont tué 11 personnes. Voilà, c'est quelque chose d'assez régulier. Alors, il y a eu des signes positifs dans tout ça. La semaine dernière, le premier cardinal centrafricain de l'histoire, hein, qui a été nommé par le pape, a fait une marche pour la paix vers un quartier musulman, enfin dans un quartier musulman, dans un esprit d'ouverture, ce qui est pas courant, hein, parce qu'il faut savoir que les milices chrétiennes, elles ont bien massacré dans ce pays. Donc c'est plutôt un geste positif. Et d'ailleurs, dans cette marche, se sont retrouvés et des musulmans et des chrétiens, et sûrement d'autres gens, mais c'est de ça dont on parle. Donc il y a des éléments comme ça qui laissent entendre que ça pourrait s'améliorer, mais ça va à la vitesse d'un escargot, hein, on peut le dire. Alors juste pour revenir sur le bilan de l'ONU et de la présence de l'ONU en Centrafrique, parce que c'est quand même pas mal critiqué la présence de la MINUSCA en Centrafrique, faut dire qu'elle est là depuis un certain temps et le calme revient pas, comme je l'ai énoncé là avec les quelques exemples. Alors début octobre, hein, il y avait déjà eu pas mal de batailles, une douzaine de morts. Donc on est vraiment dans des situations tendues. Il faut savoir que les casques bleus, ils n'interviennent pas beaucoup. Et ils laissent faire pas mal de choses. Il y a plein d'exemples. Hein. Il y a des femmes qu'on a laissées, par exemple, dans un camp à Bambari. Elles voudraient rentrer chez elles, parce que c'est le plus gros problème de la Centrafrique. C'est des gens qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Des réfugiés, des migrants internes, en fait, qui sont dans des camps et qui voudraient rentrer. Là, c'est à peu près un tiers de la population. Donc c'est beaucoup. Et elles sont séparées juste par une rivière. Et pour traverser la rivière, il y a un pont. Le pont est gardé par les casques bleus. Et les casques bleus ne les laissent pas passer parce que la ville est toujours quadrillée par des hommes armés que les casques bleus laissent agir, laissent faire. Donc voilà, et des situations comme ça, il y en a partout dans le pays. Du coup, on se rend compte que, comme souvent, ces missions de casques bleus, enfin de l'ONU, elles ont le cul entre deux chaises. Là, elles vont pas jusqu'au bout de leur mission, ou alors leur mission est exprès, va pas assez loin exprès. Et finalement, la situation perdure. Et on pourrait imaginer que ça soit comme en RDC, où les casques bleus sont installés ad vitam aeternam, hein, ce qui est vraiment pas une solution. Alors, il y a un truc positif qui s'est passé dans le pays, c'est l'élection présidentielle de 2016, hein, puisque Faustin Archange Touadéra, qui est un ancien ministre de Bozizé, le dictateur précédent, a été élu. Alors il était pas en tête au premier tour, mais il a bien su rassembler. Il a gagné au second tour et ça s'est passé plutôt dans le calme. Donc on s'était dit, après tout, la MINUSCA est arrivée à créer une situation de stabilité, un nouveau président plutôt ouvert. Sauf que voilà, depuis c'est pas du tout ça. Faut savoir que désarmement des troupes armées n'avance pas, hein, parce que ça c'est un des gros problèmes, hein, c'est ce désarmement. Pourtant il y a 40 millions de dollars qui sont prévus pour ce désarmement, puisqu'on rachète les armes, hein, c'est le principe. Voilà. Et souvent, ce qui est le cas de ces interventions de l'ONU, tout le monde se renvoie la balle. Donc le président il dit c'est à l'ONU de le faire, c'est à la MINUSCA, et la MINUSCA dit c'est au président, et du coup ça avance pas. Donc voilà, il serait temps à un moment que l'émission de l'ONU s'arrête, qu'il y ait un mandat court. Alors déjà, je suis pas sûr qu'il y en ait besoin tout le temps de ces missions de l'ONU, mais là, c'était compliqué. Bon, qu'à un moment, il s'arrête et qu'il laisse la place au gouvernement et que le gouvernement prenne ses responsabilités aussi, puisque là, il est quand même un petit peu faible, Faustin Archange Touadéra, à se défausser sur la MINUSCA. On rappelle aussi que la MINUSCA a été accusée pas mal d'agressions sexuelles, Ça, ça a été un gros problème aussi. Alors là, ça a plutôt progressé puisque l'ONU a changé les textes et maintenant il y a des condamnations, des poursuites très très lentes. Mais ça, ça s'améliore un petit peu. Enfin voilà, la situation en Centrafrique reste une situation tendue, sous tension et pleine de violence.
Alors moi, cette semaine, je vous ai trouvé un pays qui veut ouvrir ses frontières aux migrants.
Ah, donc c'est pas un pays où M. Ménard est à la tête.
Non, c'est étonnant quand même. Hein. Alors attention, on va quand même expliquer. Oui, c'est Mme Park, présidente de la Corée du Sud, qui a appelé...
Qui est pourtant très à droite.
Oh, oui, très très. Tu peux mettre le curseur. Hein. Bien sûr, le côté a appelé son gouvernement à se préparer à accueillir plus de réfugiés nord-coréens. Mme Park a rappelé un appel qu'elle avait fait déjà et qu'elle a relancé, un appel à la défection des Nord-Coréens. Elle insiste aussi sur le fait que le Sud doit se préparer à l'arrivée des Nord-Coréens d'une manière importante. Tout ça dans le cadre d'une répétition de l'unification, a-t-elle expliqué. Alors d'après le journal sud-coréen Chosun Ilbo, le gouvernement prévoit un projet portant sur la construction d'un camp qui permettrait d'accueillir 100 000 personnes pour un coût quand même de 1,6 milliard d'euros. Hein. Donc c'est un projet massif. Quand je vous dis que ça veut, il y a une volonté d'ouvrir la frontière au nord, c'est réel, hein, en tout cas dans le discours pour l'instant.
Ouais, parce que physiquement, ils ne peuvent pas l'ouvrir, la frontière. Hein.
Ah non. Mais c'est dans l'idée quand même. Hein. Voilà. Alors, il faut dire que du côté de Mme Park, il y a eu ces derniers temps une utilisation des défections. Il y a une propagande autour de ça. On valorise le fait qu'il y a des gens qui quittent le Nord. Regardez comme c'est mal le Nord. Il y a même des gens qui s'en vont. Et en particulier des gradés, dont le numéro 2 de l'ambassade de Corée du Nord en Grande-Bretagne. Donc il y a de l'élite qui quitte la Corée du Nord en ce moment. Et c'est vrai que le gouvernement sud-coréen, tous, hein, ont toujours eu l'habitude de se servir des défections nord-coréennes quand il y a un problème intérieur. Et alors là, au niveau intérieur, le problème de Mme Park, c'est sa volonté d'installer sur le sol sud-coréen un système antimissile des États-Unis d'Amérique. Et ça, l'opinion publique, elle aime pas bien parce qu'elle en a marre des militaires des États-Unis d'Amérique sur son sol. Il y a quand même un lourd passif. Hein, donc c'est vrai qu'il y a un anti-américanisme qui est quand même toujours assez présent. Pas de partout, hein, mais quand même qui existe bien et qui revient assez régulièrement dans l'actualité. C'est vrai que utiliser aussi cette propagande contre la Corée du Nord, ça c'est utile, ça permet de détourner un petit peu le regard. Et puis le gouvernement explique aussi avec Madame Park, ils expliquent que en fait c'est des ressources humaines cruciales, surtout quand c'est l'élite, parce que ça va permettre d'en savoir plus sur la Corée du Nord. Et puis c'est un signe que peut-être il peut y avoir une réunification nationale en accueillant plus de gens. Oui, je te vois sceptique. Alors par exemple, on a l'histoire d'un jeune génie des mathématiques, nord-coréen. Quand je vous dis jeune, il a 18 ans, il s'appelle Yong Yol Ri et il est arrivé mercredi en Corée du Sud. Il a fui le pays, il était à un concours de mathématiques et il a trouvé refuge à Hong Kong, il s'est barré hein, tout simplement. Il a fui et les médias sud-coréens, qui sont pas toujours crédibles sur la question nord-coréenne, mais qui quand même donnent un certain nombre d'informations, pensent que ce jeune de génie n'a pu s'enfuir qu'avec l'aide de la Chine. Alors il faut se souvenir quand même que quand les Nord-Coréens passent la frontière avec la Chine, quand ils se font attraper, leur malheur c'est de se faire renvoyer direct de l'autre côté de la frontière. C'est ce qui se passe généralement. Bon, là, on peut penser que la Chine est un peu fâchée du surarmement nord-coréen. Il y a les essais nucléaires, les missiles. Donc tout ça, ça commence un petit peu à énerver la Chine. Reste que ce jeune est arrivé, et ça aussi c'est bien hein, pour la Corée du Sud, parce qu'on récupère quand même quelqu'un qui a aussi une valeur intellectuelle et qui peut-être pourrait plutôt servir le Sud que le Nord. Donc là encore on est dans une propagande politique importante. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que on peut pas bien savoir en vrai s'il y a plus aujourd'hui de défections qu'avant. Les chiffres ils sont pas tout à fait clairs. On parle de 30 000 Nord-Coréens qui vivraient en Corée du Sud. Beaucoup sont en Chine, hein, en fait, ce sont des gens qui sont sans aucun moyen financier. Beaucoup n'arrivent pas du tout jusqu'à la Corée du Sud. Mais on peut penser qu'il y a quand même des purges en ce moment, ce qui veut dire que, en fait, l'autorité de Kim Jong-un n'est pas du tout remise en question, puisque si les gens sont à s'en aller, à pas vouloir s'opposer à lui ou à vouloir faire un coup d'État, c'est que la situation est quand même assez critique pour eux. Je vous rappelle que là-bas, quand vous n'êtes pas aimé de monsieur Kim Jong-un ou de son papa ou de son grand-papa, vous êtes exécuté, hein, c'est assez rapide, c'est pas une question d'exil ou d'enfermement. Alors, en réponse au propos de Madame Park, évidemment, Pyongyang a réagi, et toujours en subtilité, hein, oui, oui, avec beaucoup de subtilité, puisque Pyongyang a qualifié Madame Park de salope effrontée. C'est à peu près ça la traduction. Voilà, hein, ça je vous ai dit, c'est subtil, c'est subtil. Bon, les relations entre les deux Corées vont pas très très bien avec les essais des deux côtés. Du côté sud, on s'arme aussi. Mais voilà, c'est un nouveau pas de la Corée du Sud qui en appelle à la défection et donc à une arrivée massive des Nord-Coréens. Ça risque quand même d'être pas de port tout de suite.
Alors oui, alors j'ai une toute petite brève sur l'obscurantisme religieux. On a assez peu d'infos, notamment en Europe et en France, alors particulièrement, sur ce que pensent les croyants des réalités scientifiques. Et la première des réalités scientifiques que les croyants remettent en cause, ils remettent pas en cause l'électricité, ils remettent pas en cause les ondes électromagnétiques, parce que ils ont trop besoin de portables, ils ont trop besoin d'électricité pour que leur connerie elle aille jusque là. Hein. Ah, ça, j'ai dit un gros mot. Mince. Que leur bêtise aille jusque là. Mais quand ça concerne les théories de l'évolution, là, on est bien plus fort. Et on n'a aucune idée, en France, par exemple, chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les juifs, quel est le pourcentage de ces croyants-là qui remettent en cause cette théorie scientifique qui, on rappelle, est partagée par l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur le sujet. Hein. La théorie découverte par Darwin et qui a beaucoup évolué depuis. Hein. Darwin, il était juste l'initiateur. Voilà. Alors, on n'a pas trop d'infos. Hein. On sait que les trois religions, dans les textes, ils sont bien sûr anti-théorie de l'évolution. Eh bien, on a un petit sondage qui a été fait de manière intéressante par l'Office fédéral de la statistique. Alors ça existe en Suisse, oui. Donc ils sont allés interroger des évangélistes, donc des chrétiens évangélistes suisses. Et ils se posaient la question parce que le discours des évangélistes suisses, enfin des pasteurs, parle assez peu de ce sujet-là. Donc ils se sont dit, on va voir quand même quel est l'impact du rationalisme face au discours religieux. Et ils sont tombés un peu de leur chaise, puisque 65% des évangélistes suisses, donc des gens qui croient, enfin qui pratiquent le protestantisme, rejette la théorie de l'évolution. 65%. Et en fait, dans les faits, il n'y en a que 15% qui croient réellement. Alors, déjà, on leur fait croire, ils disent qu'ils croient, hein, mais bon, on pourrait dire qu'ils constatent que l'évolution est l'explication la plus cohérente de l'origine de l'être humain. 15% seulement. Voilà. C'est très, très impressionnant de voir que, en Suisse, chez les protestants, qu'on n'imagine pas obscurantistes quand même. Eh ben, en fait, si. En fait, c'est très imprégné cette pensée comme quoi, on serait tous issus de Adam et Ève ou de Lilith, parce que je vous rappelle que, il n'y a pas eu que Ève, il y a eu Lilith avant, mais ça a été enlevé dans l'Ancien Testament par les révisionnistes catholiques chrétiens, très exactement, qui voulaient pas de Lilith, qui était une femme trop indépendante et qui allait donner une mauvaise image de la femme. Hein. Ils ont modifié aussi quand il fallait la Bible, hein, bien évidemment. Et donc voilà, c'est assez triste de constater que l'obscurantisme, il est bien présent, même chez des gens qu'on pensait ouverts d'esprit et moins réactionnaires que l'image qu'on a et que donnent les médias, notamment des musulmans. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir dans les autres religions, donc chez les autres chrétiens, chez les musulmans européens, puisque là on est en Suisse, parce que alors dans les pays musulmans, c'est clair que c'est rejeté à mort, hein, mais en Suisse, ça aurait été intéressant qu'on ait sur les autres religions. Alors peut-être que ça va exister, peut-être qu'ils vont faire ça, pour savoir si cet obscurantisme est vraiment si implanté que ça, parce que c'est quand même très très grave.
Alors, on va parler du Grand Prix de l'humour vache, puisque les deux lauréats 2016 sont Michel Kishka et Khalid Guédard. Khalid Guédard, on nous en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein, c'est ce directeur de la revue satirique marocaine Baboudi. Et puis, Michel Kishka, il se définit lui-même comme juif belge, fils de déporté, il vit à Jérusalem. Ils ont succédé tous les deux à Coco. la dessinatrice de Charlie Hebdo. Ils font partie tous les deux de Cartooning for Peace. Et alors moi je trouve que Michel Kishka, il a beaucoup d'humour puisque vous savez que le prix de ce... C'est en fait le prix de ce... Je vais y arriver, de ce grand prix de l'humour vache, excusez-moi. C'est une vache limousine, elle s'appelle Justine, donc il faut devoir la partager. Et il nous explique dans... Il nous a mis en ligne son discours et il nous a dit, dans ce discours, il explique « Pour nous, un seul sacré, la liberté d'expression et la tolérance. Et ce n'est pas contradictoire. La vache du Limousin n'est peut-être pas une vache sacrée, mais c'est une sacrée vache. Elle est célèbre dans le monde entier. Elle peut être soit halal, soit cachère. D'après les lois du judaïsme, on doit manger cachère, c'est-à-dire de ne pas mélanger le lait et la viande. La vache, elle s'en fout. Elle donne du lait et elle donne sa viande. Elle est donc pluraliste, pacificatrice et fédératrice. Elle n'est pas islamophobe, puisqu'avec son lait, on fait du bon leurre, du bon beurre. Vous avez bien compris le jeu de mots. Elle n'est pas antisémite, puisqu'elle donne du bon suif. Elle a de la classe, puisqu'elle roule en limousine. » Voilà, il a quand même beaucoup d'humour et il explique « Khalid et moi vivons de part et d'autre de la Méditerranée. Lui sur la côte marocaine, moi sur la côte israélienne. Nous sommes donc dans l'entrecôte. En tant qu'artiste, nous prenons des risques. On travaille sans filet. Nous exprimons nos opinions. Nous ne sommes pas des faux culs. Avec nous, pas de faux filets. Avons-nous peur de nous exprimer là où nous vivons dans ce 21e siècle, marqué par la terreur, par le 11 septembre, par Charlie Hebdo, par l'hypercachère, par le Bataclan, par Nice et tout le reste? Notre main tremble-t-elle quand nous dessinons? À cela, une seule réponse digne de Saint-Ju et digne de Cartooning for Peace. Mais non! Voilà.
Il a une bonne plume, du coup, parce qu'il ne s'est pas que dessinateur, finalement.
Ouais, non, mais c'est voilà, c'est un texte plutôt drôle et je voulais juste parler de ce petit prix parce que c'est un petit prix, mais c'est vachement chouette.
Ouais, parce que ce qui a le plus reculé dans le monde ces 20 dernières années, c'est l'humour.
C'est un peu ça. Alors, la semaine dernière, je vous racontais que Yahoo avait des soucis, que Yahoo avait pactisé avec le diable.
Et c'est pas le seul.
Et c'est pas le seul. On a appris de l'American Civil Liberties Union que Twitter, Facebook ont donné accès à des données sur leurs utilisateurs à Geofedia, un développeur de produits de surveillance des réseaux sociaux. Et Geofedia a vendu ces informations à qui, à qui, à qui? Je vous le donne en mille, aux forces de police. Tout ça pour surveiller les activistes et les vilains rebelles. Alors, on est sûr de ça pour au moins deux villes, Oakland en Californie et Baltimore dans le Maryland. On a appris aussi par ces documents diffusés par l'American Civil Liberties Union que Geofedia se vante d'avoir couvert Ferguson, Mike Brown à l'échelle nationale avec un très grand succès. Je cite, ça fait un petit peu froid dans le dos. Voilà une affaire qui a fait du coup reculer Twitter et Facebook, qui ont décidé de ne plus pactiser avec Geofedia. C'est un peu tard, hein, peut-être, mais enfin, c'est toujours bien de le faire, au moins après coup. Et puis, on a appris par des documents que Google sort un rapport sur la transparence des informations tous les ans, que le nombre de demandes d'informations sur les utilisateurs de Google par des gouvernements a atteint un niveau record lors du premier semestre 2016, a augmenté de 10% par rapport aux 6 derniers mois de 2015. C'est ce qu'a annoncé hier Google. C'est la 4e hausse consécutive, hein, donc ça va pas pour le mieux, autant vous le dire. Donc Google avoue, hein, remettre un certain nombre d'informations au gouvernement. Alors le premier pays à demander, c'est évidemment les États-Unis d'Amérique, suivi de l'Allemagne, de la France, de l'Inde et du Royaume-Uni.
Voilà, c'est une bonne raison pour ne plus chercher des choses avec Google.
Et Google a aussi fait savoir qu'en 2016, la multinationale avait reçu les premières demandes de la part de l'Algérie, de la Biélorussie, des îles Caïmans, du Salvador, des Fidji et de l'Arabie Saoudite. Et heureusement pour un certain nombre de ces pays, Google a affirmé n'avoir donné aucune information, ne pas avoir répondu au gouvernement pour ses requêtes. Reste que c'est quand même pas bien tout ça entre Twitter, Facebook, Google et tous les autres. Hein. On sait que la surveillance ne s'arrête pas sur Internet et elle ne cesse de s'amplifier. Alors on va parler de cette affaire Samsung.
Tu veux dire le machin qui explose là ?
Ouais, le Galaxy Note 7.
C'est l'explosif le plus recherché dans le monde aujourd'hui.
Voilà, exactement. Alors la crise avait débuté le 2 septembre dernier, quand Samsung avait annoncé le rappel de 2 500 000 Galaxy Note 7, après que certains aient pris feu, explosé, fondu, carbonisé, tout ça. Là-dessus, Samsung propose un modèle de rechange qui connaît lui aussi des problèmes de feu, d'explosion, de boom, tout ça. Là-dessus, la production est stockée 2 mois après le lancement, hein, quand même, c'est un peu bête. La distribution, la vente a été interrompue. Quand même, Samsung espérait vendre 15 à 19 millions de ce modèle d'ici mars 2017. Donc ça faisait quand même un paquet de pognon. Et puis évidemment, le dernier truc hein, qui a fini de casser l'ambiance, c'est quand Samsung va demander aux utilisateurs d'éteindre le téléphone définitivement, de ne plus jamais l'allumer. Alors Samsung va devoir déterminer la cause du problème, puisque tout de suite, c'est la batterie qui a été visée.
Et parce qu'il faut savoir que ces batteries, il y a déjà eu, chez différents constructeurs d'ailleurs, des problèmes de surchauffe et donc d'explosion. Mais a priori, c'est pas forcément ça.
Non, surtout ça permet de se dédouaner un peu en disant c'est pas nous,
c'est eux qui font les batteries. Hein.
Voilà. Oui, mais c'est la filiale, c'est pas, vous voyez, c'est parce qu'on est découpé, c'est pas directement Samsung Electronics, c'est Samsung CDI. Sauf qu'a priori la batterie c'est pas certainement le seul problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une commercialisation athée de ce produit pour faire barrage au produit d'Apple, l'iPhone 7. Ce produit est déjà en vente, mais va sortir en Corée du Sud le 21 octobre prochain. Et Samsung a voulu aller très très vite sur son premier marché, qui est évidemment la Corée du Sud. Alors, on pourrait se dire, donc tout ça, c'est très mauvais financièrement pour Samsung. Il y a eu des séances très difficiles sur la place boursière de Séoul. Mais ce jeudi matin, tout est bien reparti, l'action a même progressé de plus de 1,5%. Et puis on a appris que la société de notation Standard & Poor's a déclaré qu'il n'y aurait pas d'impact sur la note de Samsung. C'est ce que la déclaration du jour. Donc en fait, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Pourtant, il y avait eu une forte baisse de l'action Samsung sur les places boursières. Il y a une annonce des prévisions de bénéfices qui ont été revues largement à la baisse. Mais en même temps, tout ça s'est remonté parce que les investisseurs finalement ne s'inquiètent pas. Il faut rappeler que Samsung ne fait pas que de la téléphonie. Oui, Samsung est présent dans l'électroménager,
c'est énorme, Samsung,
la télévision, de partout. Et en plus, c'est souvent dans le trio de tête que Samsung se situe. Donc finalement, il n'y a pas trop d'inquiétude de la part des investisseurs qui espèrent aussi que l'entreprise va se restructurer. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les investisseurs repartent, puisqu'il y a eu un certain nombre d'annonces. Alors vous savez que Samsung c'est ce qu'on appelle un chaebol, c'est-à-dire un conglomérat, c'est un empire familial avec une gouvernance familiale assez opaque, avec une élite hein, autour de la famille. Globalement c'est simple, hein, les ordres ils viennent d'en haut et ils sont absolument pas discutables ces ordres. Et c'est exactement comme ça que s'est développé Samsung, autour de la famille, autour d'une élite. Et le truc c'est que c'est devenu une multinationale et qu'aujourd'hui tout le monde explique que ce principe de chaebol n'est plus applicable pour faire vivre au niveau international un groupe aussi gros que Samsung. Mais c'est vrai que les chaebols n'ont pas l'habitude d'agir sous les yeux du public, on ne connaît pas bien des fois les comptes, les actionnaires ne sont pas du tout apparents. Il faut savoir que la famille Lee, qui contrôle ce conglomérat, c'est un espèce de truc très complexe avec des participations croisées. Il y a peut-être bien que la famille Muyes qui pourrait se rapprocher en France de ce genre de choses.
À moindre échelle,
j'y dis peut-être. Hein. Voilà. Alors qu'en fait, il faut savoir que la famille ne détient pas tant d'actions que ça. Elle en détient que 5%, mais c'est bien cette famille qui a la mainmise sur le fonctionnement, le développement et la production de Samsung. Et puis là, actuellement, on est dans une période un peu particulière puisque c'est le fils de Lee Kun-hee qui a 48 ans et qui devrait prendre la place du grand chef, du fondateur. Aujourd'hui, il est vice-président de Samsung Electronics, donc il est un peu dans la tourmente avec cette affaire de téléphone qui prend feu. Et puis, il y a une autre question que moi, je me suis demandé, mais là, jusqu'à la fin décembre, Samsung rappelle les téléphones. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ?
Ah, ils vont tout balancer. Hein.
Voilà, c'est un peu ce que, alors, ce que fait, Samsung a répondu. En fait, Samsung a reçu des questions de la part des médias sud-coréens et d'un certain nombre d'ONG à travers le monde qui demandent la question, mais qu'est-ce que vous allez en faire? La réponse, elle est...
Ils vont tout jeter.
Ils vont tout jeter.
En fait, le truc, c'est qu'une fois qu'ils auront trouvé d'où vient le problème technique, hein, ce qui est relativement faisable pour des ingénieurs du niveau de ceux qu'on trouve chez Samsung, hein, ils vont faire des tests et après, ils vont se rendre compte de ce qui va pas. Et ce qui va pas, souvent, c'est lié à une carte électronique quelconque dedans. Et finalement, redémonter le téléphone, ressouder, changer la carte, ressouder les composants et des choses comme ça dessus, c'est plus jouable dans les technologies modernes. C'est fait par des machines, c'est pas fait par des êtres humains. Du coup, la réparation n'est pas possible, hein, ou devient plus cher que le téléphone de base et surtout plus compliqué à mettre en œuvre. Du coup, on s'emmerde pas. On est prêt à perdre 2 milliards, à tout balancer et à repartir sur une base saine. Il faut quand même dire que c'est dans l'idée de compétition internationale exagérée, hein, où il y a un renouvellement des produits tous les 6, 9, 12 mois, qui est responsable, hein, de cette explosion. C'est pas Samsung qui est responsable. Alors, ils en sont responsables techniquement, mais ils ont choisi et ils sont comme les autres. C'est-à-dire qu'ils sont, parce qu'Apple a déjà eu des soucis, puis d'autres aussi, c'est que ça va trop vite. Et effectivement, ils n'ont pas le temps de tester les produits suffisamment pour se rendre compte de ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher. Hein, le téléphone portable, c'est quand même un outil très petit. À l'intérieur, vous avez une puissance assez incroyable. Ça chauffe quand même beaucoup, forcément. Il y a plein d'impacts. Il faut un peu faire des essais et ils vont trop vite. Voilà, ils sont victimes de ce qu'ils ont voulu faire, hein, mais de ce qu'ils font contre leur ennemi juré qui est Apple, mais contre les autres aussi. Donc voilà, c'est le système qui est pourri. Effectivement, si on faisait des téléphones portables réparables sur d'autres technologies, et ben quand on se rend compte d'un petit bout qui serait mal conçu, on le changerait et ça pourrait repartir et il serait récupéré, ces téléphones.
Ouais, sauf que là les ONG environnementales s'inquiètent aussi des éléments rares qui sont à l'intérieur et qui sont extrêmement polluants parce que ça fait beaucoup de matériel qui va être jeté et que c'est un principe aussi c'est qu'on jette. Alors ici d'ici en France, ça peut nous paraître juste une simple affaire de consommation, finalement, un téléphone qui marche pas, on se moque du capitalisme et ça nous fait marrer, mais il faut bien se rendre compte que Samsung, c'est 17% du PIB coréen.
Oui, c'est important. Ouais.
Donc c'est important. La Banque de Corée a pris en compte ses difficultés pour dans son calcul des prévisions de croissance pour l'année 2017, et la Banque de Corée a ramené de 2,9 à 2,8 sa prévision de croissance pour l'année prochaine.
Juste à cause de téléphones, c'est quand même balèze, sur un pays complet.
Pour une centaine de téléphones qui ont effectivement explosé.
Donc voilà, mais bon, il y a des chances que d'ici 2017, ils aient trouvé et qu'ils en refabriquent d'autres et que le système reparte. Et puis voilà, la prochaine fois, ça arrivera sûrement à quelqu'un d'autre parce que le système est sans fin.
C'est ça.
Alors on va parler un peu d'environnement maintenant et on va commencer par parler de l'impact des voitures sur la pollution. Alors il y a souvent un dédouanement, vous l'avez entendu, notamment des. Bah, en France on a une asso qui s'appelle 40 millions d'assassins. Ah non, c'est pas ça. 40 millions d'automobilistes, pardon, qui militent pour dire chaque fois qu'il y a une info sur la pollution, attention, l'automobile n'est pas le seul responsable de la pollution atmosphérique. Il y a aussi le chauffage, il y a aussi les entreprises, etc. Alors bien évidemment, on sait que c'est faux. La preuve est tombée cette semaine, puisqu'il y a eu un truc assez incroyable, alors qu'on ne peut pas mettre en œuvre dans nos sociétés, c'est qu'il s'est passé dans une ville du monde, enfin dans un pays du monde, une journée sans voiture, dans tout le pays. Alors vous allez me dire, comment c'est possible ? Et bon, c'est le fanatisme religieux qui est responsable de ça, hein, puisque ça se passe en Israël et c'est la fête de Kippour qui a eu lieu entre mercredi et jeudi. Moi, je sais plus. Ouais, c'était hier, en tout cas, je crois. Et donc, dans cette fête de Kippour, il n'y a pas d'utilisation de voiture. Donc, les juifs se baladent à pied, en vélo, en trottinette, tout ce que vous voulez. Et on peut mesurer l'impact de la disparition du jour au lendemain des voitures. Il reste les services de sécurité, hein, les ambulances, tout ça, mais du coup, c'est ultra négligeable. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Donc, ils ont mesuré la pollution atmosphérique pendant cette fête de Yom Kippour. Eh bien, 90% en moins de pollution. Énorme. Voilà, comme quoi, c'est bien l'automobile qui tue par la pollution atmosphérique. C'est énorme, hein, le chiffre. Hein, c'est 50 000 par an, on va dire. Et si vous calculez depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'automobile a tué plus aujourd'hui en Europe que les nazis pendant la guerre. C'est vraiment un assassinat de masse, mais comme ça se fait au jour le jour, que les gens, que la majorité de la population y participe, il n'y a pas de remise en cause des choses. C'est assez triste à voir, mais c'est l'impact, il est énorme. Il faut vraiment comparer sur un certain nombre d'années pour voir que c'est vraiment un truc qui est très très grave. Alors, si on fait l'équivalent, ce qui avait été fait à Paris, là où on avait une journée sans voiture, il y avait eu déjà des mesures à certains endroits, ils avaient une baisse de 20-35% du dioxyde d'azote. Alors à Paris, ils avaient mesuré le dioxyde d'azote parce que c'était plus facile. Mais à d'autres endroits, ça avait augmenté. Ben effectivement, parce que ça démontrait une chose. Maintenant, avec l'exemple d'Israël et la comparaison avec ce qui s'est passé à Paris pour la journée sans voiture, c'est qu'en fait, si on veut réduire l'impact de la pollution automobile, faut la supprimer partout. À Paris, c'était localisé dans le centre-ville, dans certains quartiers, et une partie de la circulation automobile s'était répartie ailleurs et avait augmenté la pollution ailleurs, qui s'était déplacée, et donc on n'avait pas beaucoup gagné ce jour-là. Et là, Israël, avec la fête de Yom Kippour, ils ont démontré qu'en fait que on pouvait diminuer de 90%. Vous imaginez, 90%, il n'y a plus d'impact sur la santé. Les 10% qui restent, ils deviennent négligeables sur la santé des adultes, des personnes âgées et des enfants. On rappelle que 30% de l'asthme dans les villes est dû à la pollution automobile. C'est une étude anglaise il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, c'est une belle démonstration. Bon, c'est assez rare d'avoir quelque chose qu'on puisse expérimenter à cette échelle-là. Là, c'est un bel exemple.
Je mettrai juste moi un bémol sur le fanatisme de la fête de Kippour. Israël ne s'est pas transformé en une grande secte, voilà. Même si il est vrai que ça reste aussi une fête familiale, ouais. Mais il est vrai que pour des rationalistes comme nous, se retrouver dans une ville comme Jérusalem qui s'arrête au moment du Shabbat complètement, ouais. C'est toujours très surprenant. Voilà.
Oui, c'est
là-dessus je te rejoins.
C'est une secte religieuse.
Mais je mettais un petit bémol sur le fanatisme. Ouais.
Voilà. Mais c'est impressionnant quand même.
Ouais. Tout à fait.
Tout le monde s'arrête, quoi. Il n'y a pas d'exception. Hein.
Eh oui.
C'est un truc de fou. On va rester sur l'environnement. On va parler des pesticides. Alors, il y a eu pas mal d'études. Hein. Vous avez entendu parler de l'étude sur les céréales du matin où toutes les céréales testées contiennent des résidus de pesticides, sauf bien évidemment les marques bio, puisque comme dans le bio il n'y a pas de pesticides, il peut y avoir quelques contaminations indirectes, mais là ils n'en ont pas trouvé, et puis quand c'est des contaminations indirectes dans le bio c'est très très faible. Alors toutes les marques sont concernées, effectivement les pesticides sont à déconseiller quand c'est pas des marques bio le matin, ça vous avez tous compris, et notamment pour les enfants, parce qu'il y a pas mal de perturbateurs endocriniens qui ont été trouvés dans ces boîtes. Et du coup ça a relancé l'idée qu'il fallait peut-être qu'on fasse des recherches. Et ça a fait réagir un groupe de chercheurs qui s'est fait caler il n'y a pas longtemps. Donc ils ont envoyé un courrier, c'était il y a 3 jours, le 10 octobre, au ministère de l'Agriculture, de la Santé, du Travail, de l'Environnement et de la Recherche, c'est tout ça le ministère, parce qu'ils ont eu un refus de financement d'un projet de recherche en santé publique sur le thème des pesticides. Alors, ce qu'ils cherchaient, en fait, il y a déjà pas mal d'études dessus, mais pas à grande échelle. Il y a des études, il y a une étude de l'INSERM importante en 2013, de l'ANSES en 2016, enfin, il y en a partout des études sur les pesticides, mais pas à grande échelle telle que eux, ils l'envisageaient. En fait, c'est le centre hospitalier d'Avignon qui ont constaté une augmentation importante ces dernières années des cancers hématologiques, des lymphomes, des myélomes, des leucémies. Dans un bassin particulier de population qui est celui d'Avignon. Donc ils se sont dit, il faut lancer une grande étude épidémiologique notamment pour essayer de comprendre d'où ça peut venir. Donc c'est ce qu'ils avaient comme idée pour essayer de comprendre. Alors normalement, ils ont fait leur demande, ça avait reçu, ça a été classé priorité 1, donc au départ c'était super, ils allaient y avoir droit, et là, pouf, avis négatif. Et ils comprennent pas pourquoi. Le refus est non motivé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication. Pourtant, ça rentre totalement dans le cadre du projet Ecophyto 2, qui est un projet dont le but est effectivement d'étudier l'impact des produits phytosanitaires. Et ben, ils comprennent pas. Donc, ils ont fait cette lettre qu'ils ont envoyée et qu'ils ont médiatisée, qu'ils ont envoyée au ministère pour comprendre et pour peut-être que faire changer la vie. Parce qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir des études, non pas, c'est donc une étude comme ça, c'est pas une étude qui va prendre le produit, qui va le mettre sur des cellules et dire, regardez, ça tue ça, ça fait ça, ça fait ça. Ça, les gens de l'INSERM le font déjà, et dans le monde, il y a des centaines d'études, voire des milliers d'études, qui ont montré l'impact du glyphosate, de toutes ces merdes, qui vont vraiment détruire, avoir un impact négatif sur la santé. Non, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une étude plus large, épidémiologique, sur les populations, tous ceux qui ont un cancer. Eh ben, on cherche à comprendre d'où ça vient. Donc, ils vont leur poser des questions sur leur travail, sur leur milieu, sur leur environnement. Est-ce qu'ils habitent proche de champs avec de l'agriculture intensive? Est-ce qu'ils ont travaillé dans des milieux où il y a potentiellement des produits cancérigènes? C'est une, voilà, une étude d'impact, savoir, essayer de comprendre d'où a pu venir l'origine des cancers. Et c'est un truc qui est pas vraiment fait. Enfin, en tout cas pas souvent et pas assez, parce que là ça permettrait malheureusement de faire peur à certains, c'est-à-dire de se rendre compte que quand on habite à la campagne, pas loin d'un champ cultivé en agriculture traditionnelle, c'est-à-dire productiviste et polluante, eh ben on a des risques énormes sur la santé. Voilà, donc c'est triste ce refus, mais bon, ils essayent de faire changer les choses. On va parler un peu de nucléaire. Alors, une petite info un peu marrante vis-à-vis de la situation française. Il y a la gauche suisse qui s'est alliée. Alors, ça s'appelle l'Alliance de gauche, qui soutient ce qui a été l'initiative populaire qui a été lancée par les écolos suisses de sortir du nucléaire. Et l'initiative populaire s'appelle Sortir du nucléaire. Alors, l'initiative populaire, je vous rappelle, en Suisse, hein, c'est une sorte de référendum. Là, donc, ils font voter la population suisse. C'est des votations, comme on dit. Et les gens vont dire s'ils sont pour ou contre sortir du nucléaire. C'est le 27 novembre que cette votation devrait avoir lieu. Et donc c'est porté par les Verts, ce qui est logique, hein, les écolos sont forcément anti-nucléaires, hein, sinon c'est pas des écolos, et ben ils sont soutenus par cette alliance de gauche. Alors c'est drôle, parce qu'en France, la gauche est pro-nucléaire depuis l'histoire de la gauche presque, hein, enfin depuis que le nucléaire existe, hein, depuis les années 60 presque. Hein, peut-être au début ils ont hésité, mais bon après non. Hein. Donc effectivement on est très décalé en Suisse par rapport à la France sur ce genre d'idées. Alors le texte est plutôt pas mal, bon, et le texte de l'Alliance de gauche qui soutient les écolos, et le texte des écolos, hein, qui demande voilà, la sortie nucléaire. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a déjà une avancée importante, hein, il y a des réacteurs qui vont fermer avant cette votation-là, hein, puisqu'ils sont estimés trop vieux et que ça ferme. Il y a même BKW qui exploite la centrale de Mühleberg, qui a décidé de la fermer en 2019 pour des raisons économiques. Bah oui, aujourd'hui, faire du nucléaire, ça peut coûter plus cher, hein, que de faire d'autres types d'électricité, enfin à partir d'autres éléments, notamment des éléments respectueux de l'environnement. Donc voilà, alors l'idée, hein, de ce qui est lancé par les Verts, c'est que il faut sortir le nucléaire rapidement. Il y a un truc qui s'appelle la stratégie énergétique 2050, hein, qui a été adoptée par la dernière session du Parlement suisse, qui fait un pas important en faveur des énergies renouvelables. En Suisse, c'est pas ultra développé, hein, les énergies renouvelables, et qui interdit déjà, hein, la construction de nouvelles centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'en Suisse, on peut plus construire de centrales nucléaires, c'est déjà interdit. Mais l'arrêt est prévu sur le long terme, et il voudrait juste que ça aille un peu plus vite, histoire qu'il limite les risques, hein, puisqu'on sait que le plus gros problème, c'est les risques, et puis après, bon, c'est compliqué à démanteler, du coup, on s'y attelle tout de suite. Voilà. Et alors, en conséquence de ça, de cette votation là du 27 novembre pour la sortie du nucléaire, eh ben ça a fait réagir d'autres gens qui sont contre, hein, qui sont pour rester dans le nucléaire. Et c'est l'association des importateurs suisses d'automobiles qui a réagi. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les assauts des importateurs d'automobiles contre le nucléaire? Bah, ils ont dans l'automobile, le nucléaire intervient jusqu'à maintenant très peu, hein, puisque les automobiles, jusqu'à preuve du contraire, elles n'ont pas de réacteur, elles ont du pétrole, hein, du gasoil ou de l'essence, ou du GP, enfin tout ce que vous voulez, hein, mais un hydrocarbure. Eh ben non, eux, ils sont contre parce que ils disent attention, le marché de ce qu'ils appellent l'électromobilité, c'est-à-dire les voitures électriques, est en progression. Et l'année dernière, 1,7% des immatriculations en Suisse étaient électriques. L'année d'avant, c'était 1%. Donc effectivement, ça augmente. Et eux, ils estiment que c'est un truc positif sur la planète, car ça permet d'économiser du CO2. Alors effectivement, au niveau du CO2, le nucléaire, même s'il en émet, hein, contrairement à ce que la propagande, il en émet moins qu'un moteur à essence. Mais enfin bon, il émet d'autres merdes dont on ne sait pas quoi faire. Hein. C'est beaucoup plus compliqué d'éliminer des produits radioactifs que d'éliminer du CO2. Hein. Mais bon, ils n'ont pas l'air de savoir ça, ces défenseurs de l'automobile et de l'importation d'automobiles. Parce qu'il n'y a pas de fabricant suisse d'automobiles, a priori. Donc voilà, ils ont fait tout un discours pour dire que, pour s'opposer à la fermeture des trois centrales qui restent en fonctionnement et qui sont prévues dans l'initiative des Verts. Et ben c'est juste pour ce qui est marrant finalement dans l'affaire, c'est que ça nous rappelle ce que disaient pas mal d'écolos il y a quelques années, c'est que de développer la voiture électrique, c'est développer l'énergie nucléaire. Hein, et il y avait ce slogan voiture électrique égale voiture nucléaire. Et ça, c'est une réalité. La quantité d'énergie pour déplacer 1,5 tonne ou 1,2 tonne que représente une voiture, c'est phénoménal. Si on veut le faire avec de l'énergie électrique, c'est inaccessible. Peut-être que dans 30 ou 40 ans on arrivera à récupérer suffisamment d'énergie du soleil pour y arriver, mais là c'est pas envisageable. Donc vouloir basculer dans le véhicule électrique individuel, c'est vouloir défendre le nucléaire. C'est inévitable. Ils nous le rappellent, hein, parce que en France, les constructeurs EDF, tout ça, ils le disent jamais, ça. Hein, ils sont beaucoup trop hypocrites et menteurs pour tenir ce genre de discours. Mais c'est bien de ça dont il est question à travers c'est un communiqué de presse, on va dire, de l'association des importateurs suisses d'automobiles qui a bien conscience que l'électromobilité, comme ils disent, ça concerne les voitures, hein, parce que ça concernera pas les vélos à assistance électrique, hein, qui eux ont beaucoup moins de puissance à mettre en jeu et dont on peut trouver la puissance de manière avec des énergies renouvelables. C'est bien de ça dont il est question. Donc oui, la voiture électrique, c'est bien une voiture forcément nucléaire. Et puis un petit mot sur Israël pour terminer. Et tu sais, tu te rappelles, il y a 15 jours, j'ai fait un édito où j'ai parlé de Shimon Peres, mm-hmm. et que j'avais rappelé que c'était quand même lui qui était à l'origine du nucléaire israélien, et notamment des bombes atomiques que dispose Israël, grâce à l'aide de la France et de l'ancêtre d'Areva et d'EDF en France. Un hommage. Et Benjamin Netanyahu a dû écouter le Canu Info. Et il a voulu rendre hommage à Shimon Peres et il a décidé de changer le nom de la centrale nucléaire de Dimona et de l'appeler la centrale nucléaire de Shimon Peres. C'est pas une blague. C'est un vrai truc. Et voilà, donc la centrale nucléaire va s'appeler centrale nucléaire Shimon Peres pour nous rappeler que c'est bien lui qui a l'initiative du programme nucléaire israélien. Voilà, c'était la petite info de fin de Canu Info. C'est pas drôle en fait. C'est pas très drôle. Mais voilà.
Écoute, vu qu'il me reste quelques minutes, je vais me permettre de parler d'Amazon. On a appris qu'Amazon allait employer 120 000 saisonniers aux États-Unis d'Amérique pour les fêtes. Hein. Il y a Noël, mais il y a surtout le Thanksgiving. Et puis en France, on a appris qu'Amazon allait ouvrir son 5e centre de distribution. Ça sera le site de Boves, près d'Amiens, dans la Somme. Et ce centre de distribution va ouvrir en septembre 2017 et on nous annonce 500 contrats à durée indéterminée sur 3 ans, hein, quand même, on va pas y aller tout de suite. Alors, évidemment, on peut dire que c'est déjà ça de prix, que c'est de l'emploi, hein.
Ouais, enfin, sauf que pour un emploi créé chez Amazon, ça en détruit combien ailleurs?
Et puis, quel emploi?
Oui, et quel emploi de merde?
La question, alors effectivement.
Pardon, encore un gros mot.
Oui, t'entends notre troisième, hein, là, déjà. Alors, est-ce qu'on peut se réjouir de cette expansion d'Amazon? Alors, comme tu le dis, au niveau du commerce traditionnel, pas trop. Ça a fait réagir la Confédération des commerçants de France, qui regroupe 18 fédérations de petites entreprises, qui s'inquiètent, hein, de cette concurrence de cette multinationale de la vente en ligne. Mais alors, à mon avis, ils devraient continuer un petit peu à s'inquiéter, puisqu'après le lancement de Fresh en 2015, Amazon est en train de réfléchir pour ouvrir des boutiques, des épiceries. Oui, des petites épiceries, c'est-à-dire...
Ça fait rêver, Amazon.
Ça fait rêver, hein, parce que ça veut dire que même si jamais ils arrivaient un petit peu à se battre, à proposer des super services contre le service en ligne d'Amazon, eh ben, ils risquent de se retrouver un jour, alors pas tout de suite en France, hein, c'est un projet pour les États-Unis d'Amérique, avec une petite épicerie Amazon, si c'est pas magnifique le capitalisme quand même. Alors après, est-ce qu'effectivement ça va créer de l'emploi? C'est super bien quand même, un nouveau truc Amazon, puisque ça crée plein de choses. On sait qu'en plus, après, il y a plein de saisonniers. Bon... Alors, il faut savoir que quand même, chez Amazon, il y a un fort turnover, hein. Les gens ne restent pas. Il y a pas mal d'absentéisme. Il y a un fort taux d'accidents du travail. Mais il faut dire que, ben, c'est la productivité, à tout prix, le minutage, hein, de la tâche, des temps de pause, du pipi, hein. Tout y passe, hein. Tout est minuté à Amazon. Donc, finalement, ils ont du mal, a priori, Amazon, quand même, à attirer, le chaland pour aller travailler là-bas, même si effectivement, bah, quand on est au chômage et surtout dans des régions un petit peu difficiles, bah, on y va, hein. Sauf qu'a priori, on n'y reste pas, hein. Ça, c'est un petit peu ce qu'on nous explique du nouveau au niveau des syndicats. Mais voilà, c'est plein d'espoir, Amazon, en tout cas, parce que c'est un, moi, je trouve que c'est une entreprise vraiment qui est en plein développement et je vous incite vraiment à continuer, parce que là, on a quand même aujourd'hui parlé de belles entreprises, hein, ouais. Twitter, Facebook, Google, enfin, Alphabet, excusez-moi, Samsung, Amazon, on est dans la PTE.
La PTE ?
Oui, la TPE. Toute petite entreprise. Excusez-moi, je l'ai dit à l'envers avec l'acronyme, je m'y perds des fois.
Qui nous envahit.
Exactement.
Alors vite, avant de passer la main à l'émission suivante, un petit agenda, ça commence ce soir avec un truc très intéressant, très bien. Ça a recommencé, je crois, le mois dernier, à la MJC du Violon, le jeudi soir, une fois par mois, quelque chose comme ça, à la salle Léo Ferré, très exactement, c'est 5 Place Saint-Jean. Il y a des projections de documentaires et après des discussions autour d'un sujet. Aujourd'hui, c'est migrants, deux points, quel accueil pour notre. Alors, au moment où les fachos et racistes de tous bords y vont de leurs affiches et de leurs discours contre les migrants, alors que dans des villes de plusieurs milliers d'habitants, on leur parle de 10 ou 20 migrants, et là, c'est dehors les migrants, ça fait quand même un petit peu peur, hein, cette montée du racisme. Donc, c'est l'occasion, avec des gens progressistes, de parler de ça. Il y a la projection du documentaire qui s'appelle « Nulle part en France » de Yolande Moreau. Et voilà, donc il y aura des personnes investies dans l'accueil des migrants qui vont aider les migrants. C'est ce soir à 20h, donc dans quelques minutes, à la MJC du Vieux-Lyon. Samedi, j'ai un truc marrant, solidaire avec les femmes de ménage de Lapardieu. Elles incitent à venir faire un sitting devant les toilettes du centre commercial de Lapardieu. Donc c'est à 17h très exactement, pour demander le respect des droits syndicaux, le doublement des effectifs, le passage en CDI des employés précaires, la prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage et la mise en place progressive du 13e mois. On les soutient. Voilà, un sitting devant le pipi room du centre commercial de Lapardieu. Et à 15h, toujours samedi, un rassemblement devant le consulat général de Turquie contre la répression en Turquie. Et je vais terminer là-dessus, puisqu'il me reste quelques secondes. Toujours samedi, c'est le soir à 21h, c'est au 6e continent, hein, 51 rue Saint-Michel dans le 7e, une soirée de soutien aux familles du Kurdistan. Donc avec beaucoup de hip-hop et de rap et Mehmet pour la chanson kurde. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Il nous reste 30 secondes.
Eh bien, juste le temps de vous souhaiter une bonne soirée. On vous laisse avec le retour de la petite cuillère. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao.